Laurent Géronimi, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes directeur de la gestion taux chez Swiss Life Banque Privée. On va parler avec vous donc de marché obligataire. Bien sûr, ce qui aujourd'hui intéresse les investisseurs, c'est la compréhension de ce qu'a décidé la Banque Centrale Européenne. Quelle a été votre analyse au lendemain de cette décision, donc de ce fameux quantitative easing, donc assouplissement quantitatif décidé par la BCE?
Bon, au départ, un sentiment positif, puisque la BCE n'a pas déçu sur le montant de programme d'achat d'actifs, 60 milliards d'euros par mois, soit sur la période de mars 2015 à septembre 2016, 1200 milliards d'euros à peu près. C'est un programme d'achat qui concerne des emprunts d'État souverains, des dettes privées. Par contre, ce qui nous a quand même un petit peu déçus, ou en tout cas interpellés, c'est la mutualisation limitée de ce programme d'achat. Donc, il est entièrement sous contrôle de la Banque Centrale Européenne, mais seulement 20% donc de l'ensemble emprunt d'État, dette privée, est mutualisé avec la Banque Centrale Européenne. Donc, ça veut dire que 80% de ce programme d'achat va rester sous la responsabilité des banques centrales nationales. Donc, s'il y a un problème sur la dette, par exemple sur l'OAT, c'est la Banque de France qui est responsable, donc l'État français, et donc les contribuables du pays concerné. Donc, en l'occurrence, la France était sur l'OAT. Donc, ça veut dire que ce programme d'achat d'actifs a été quelque part contraint et forcé. Il a fallu le faire puisque la zone euro a une inflation qui est trop faible, aujourd'hui très en deçà de la cible des 2%. Mais par contre, il y a la volonté de Mario Draghi de dire il faut absolument que les États mettent en place, en fonction de leurs besoins, les réformes structurelles dont effectivement ils ont besoin. C'est-à-dire un retour à l'équilibre au niveau budgétaire, une flexibilité du marché du travail, un équilibre du système des retraites, et tout ce genre de choses qui aujourd'hui sont en déséquilibre.
Donc quelque part, il faut bien lire, on va dire, derrière les déclarations, les conséquences concrètes, ce que vous dites avec les banques centrales locales, si on peut dire, ou régionales, ou voilà, la Banque de France qui vont avoir leurs propres responsabilités.
Leur responsabilité est derrière elles, finalement, ce sont les États. Ce sont les États. Donc, effectivement, d'une part, bon, c'est bénéfique et le marché a très bien réagi. Tous les actifs risqués ont bien réagi. Nous considérons, au niveau de Swiss Life Banque Privée, que ce programme de quantitative easing est un soutien pour tous les actifs risqués sur l'année 2015. Par contre, effectivement, la prime de risque, c'est est-ce que les États vont arriver à mettre en place les réformes dans, quelque part, le délai imparti.
Alors, on pourrait dire qu'est venu s'ajouter à ce nouveau panorama européen le sujet grec, bien entendu, avec, on voit les discussions tendues entre la Banque Centrale Européenne, en tout cas qui fait des déclarations par rapport à la dette grecque, et puis la Grèce qui négocie avec les Européens. Ça peut créer de la volatilité. Est-ce que, simplement, qu'est-ce que ça apporte aux investisseurs, justement? Est-ce qu'il y a de nouveaux risques, peut-être, qui ne sont pas encore intégrés?
En tout cas, il y a un changement de la nature du risque au niveau de la zone euro. Elle est moins sur les spreads, compte tenu donc du programme d'achat d'actifs de la Banque Centrale Européenne, mais elle est plus sur la prime de risque aujourd'hui et plus sur la crédibilité du gouvernement dans chacun des pays et quelque part sa vulnérabilité également. Et en l'occurrence, le gouvernement de Tsipras avait promis aux Grecs, au peuple grec, de mettre fin à l'austérité, austérité qui avait été demandée par la Troïka, donc Banque Centrale Européenne, Commission Européenne et FMI. Mais d'un autre côté, en fait, toute la communauté européenne et le FMI ont prêté de l'argent à la Grèce, des montants importants, 375 milliards d'euros. Le nouveau gouvernement grec souhaiterait une annulation de cette dette. La BCE et le FMI ont rang de créance privilégiée, donc n'ont pas annulé la dette. C'est-à-dire que ce serait les prêts bilatéraux des États. La France qui aurait prêté à la Grèce qui annulerait son prêt. Pour quelle raison? Il faudrait que ça passe devant l'Assemblée nationale. Sur ces entrefaits, sur ces discussions qui ne sont pas encore abouties, la Banque centrale européenne a annoncé hier qu'elle mettait fin à un accord très particulier, une dérogation dont bénéficiaient les banques grecques. Les banques grecques pouvaient apporter, en échange d'un financement très intéressant, des emprunts d'État grecs. C'était une dérogation, puisque les emprunts grecs sont notés à yield, donc en dessous de la notation triple B. C'est aujourd'hui les banques grecques peuvent encore se financer, mais ça leur coûte plus cher. Il faut apporter des actifs de bonne qualité auprès de la Banque Centrale Européenne, il faut apporter des actifs auprès de la Banque Centrale Grecque sous forme d'un programme de financement d'urgence, la Banque Centrale Grecque se finançant elle-même auprès de la Banque Centrale Européenne. Sachant que ce programme de financement auprès de la Banque Centrale Européenne peut être arrêté si les deux tiers des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne décident de stopper les financements à la Banque Centrale Grecque. Donc oui, aujourd'hui, la pression quand même est mise sur le gouvernement grec. Les choses ne sont pas aussi faciles que cela.
Donc ça créera peut-être de la volatilité dans les prochains mois à ce sujet.
Très probablement. Je dirais même dans les semaines qui viennent.
Alors, d'autre côté de l'Atlantique, on pourrait dire que le scénario paraissait différent. Pourtant, 2015 est aussi remis en question, puisque la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale américaine, elle, en tout cas, c'est d'après certains investisseurs, parie plutôt finalement maintenant sur une hausse de taux, mais peut-être même pas cette année, alors que le consensus était facilement juin 2015.
Bon, nous avions une idée entre juin et septembre 2015. La croissance économique américaine a une dynamique qui nous paraît saine et forte. Il y a un facteur aussi qui va renforcer cette dynamique. Avec le programme de quantitative easing de souverain de la Banque Centrale Européenne, l'euro s'est affaibli mécaniquement. Le dollar s'est quand même renchéri. Ça a eu un impact négatif sur l'économie américaine. On a vu au cours du quatrième trimestre, mais quand même, il y a une forte demande, enfin une forte création d'emplois. Et pour nous, 2015, les Américains vont avoir un taux de chômage de 5,5% proche du plein emploi. Donc, ça ne remet pas en cause quelque part le scénario de remontée des taux de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qui pourrait affecter plus donc la chute des prix du pétrole?
Vous vouliez dire la Fed, oui.
Oui, la Fed. Donc, qu'est-ce qui pourrait affecter plus l'économie américaine? Est-ce que la chute du pétrole pourrait avoir un impact, puisqu'il y a des pans de l'économie américaine qui dépendent de cela? C'est le secteur extractif. Ça représente 1% des emplois américains. Vu le niveau du prix du baril, il est fort probable qu'il y ait des faillites. Mais au niveau des États-Unis, il y aura une activité et des services qui vont bénéficier de la baisse du prix du pétrole, donc des créations d'emplois dans ces services, et donc mécaniquement une activité qui risque d'être soutenue. Donc quelque part, pour nous, la Fed va rester sur un objectif dit de inflation cœur et ne pas regarder tout ce qui est énergie, matières premières qui sont plus volatiles.
Le mot de la fin sur, du coup, la stratégie sur ces marchés obligataires avec ces taux qui vont rester bas en Europe, on l'a dit, peut-être encore une période encore plus longue, aux États-Unis, ça va peut-être prendre un peu plus de temps à remonter, où aller chercher du rendement dans ces conditions?
Nous regardons aujourd'hui les subordonnées financières et les hybrides corporate. Bon, les subordonnées financières sont des titres perpétuels, comme les hybrides corporate. La réglementation, aujourd'hui, vous savez que les banques systémiques doivent constituer un tampon de leurs fonds propres en cas de problème pour absorber une partie des pertes liées à des risques systémiques, contracycliques, etc. Et ce tampon va être constitué d'émissions subordonnées. Jusqu'à présent, les banques émettaient à peu près entre 20 et 25 milliards d'euros de ce type de produit. Comme ce ratio d'absorption totale des pertes doit être constitué au 1er janvier 2019, on attend des émissions d'un montant par an d'au moins de 100 milliards d'euros. Donc ce sont les types de produits sur lesquels nous allons aller. De même, les hybrides corporate qui devraient avoir un traitement fiscal privilégié. Ça sera validé en cours de l'automne 2015. Donc on joue sur des financements long terme. De toute manière, le fait que les taux restent bas, dû au programme de quantitative easing de la BCE, mais également aussi de ce que va faire la Banque du Japon, tout cela entraîne un déplacement des liquidités vers et les taux longs et tout ce qui peut avoir, donc, comme les actions, une durée de vie très longue.
Eh bien, on suivra ça. Merci Laurent Géronimi d'avoir été avec nous.
Merci.